Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hep, 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 ne zappe pas tout de suite, ceci n'est pas une pub. On n'est pas là pour te parler de notre eczéma, ni de notre célibat, mais du prochain événement d'extimité. Le samedi 28 mars 2020, à Paris, on organise une soirée entièrement gratuite autour des femmes en drague. On va se mettre bien en commençant par une table ronde, avec Schlagazalakas, Morphine Blaze et Georges.
Qu'elles soient drag queen ou drag king, transgenre ou cisgenre, elles ont un regard sur la scène drague, mais aussi son public et son évolution. Pourquoi semble-t-elle si invisible alors que la scène drag devient mainstream? Nous, on a une petite idée. Men are trash.
Men are trash. Après la réflexion, place à la fête. La table ronde sera suivie d'une performance de nos drag invités. Puis un DJ set de Mal, un collectif de trois meufs badass.
Cette soirée gratuite a lieu dans le cadre du festival Pop Meuf, un événement féministe qui dure tout le mois de mars au pavillon des Canaux. On vous donne donc rendez-vous le samedi 28 mars à 18h au 39 quai de Loire dans le 19e à Paris. Toutes les infos sont dans la description de cet épisode et sur nos réseaux, évidemment. Pour celles et ceux qui ne pourraient pas venir, pas de panique, vous pouvez aussi nous soutenir par des dons via notre PayPal, également en description.
Lien qui fonctionne aussi pour celles et ceux qui peuvent venir, hein, d'ailleurs. On vous laisse donc avec votre épisode d'extimité, le thé est bouillant. Bonne écoute.
Donc moi c'est Morgan, j'ai 26 ans, je suis un homme queer, c'est-à-dire que je ne m'identifie ni comme hétérosexuel ni comme une personne cisgenre. Je suis juif du côté de ma mère et afro-descendant, carteron camerounais du côté de mon père. Je suis un fier vegan, un fier féministe et un fier allié et j'ai été... Également diagnostiqué pendant mon adolescence comme haut potentiel, et du coup toutes ces identités-là se mélangent un petit peu. Elles ont été un temps assez difficile à porter, parce que c'était pas mal de pression sur mes épaules. Et là je commence un petit peu tranquillement à faire la paix avec tout ça, quoi.
Est-ce que tu veux bien nous parler de ton enfance ?
Alors, mon enfance a été, somme toute, plutôt joyeuse. Je grandis en région parisienne, élevé principalement par un système matriarcal, parce que je suis élevé par ma mère, par ma sœur, par la mère de ma sœur, par ma grand-mère. Et la figure un petit peu masculine que j'ai, c'est mon grand-père maternel. Parce que bah, jusqu'à mes 6 ans, mes parents étaient séparés. Donc du coup, je voyais mon père, mais voilà, une à deux fois par semaine. J'ai plus été élevé par des femmes. Ouais, je définirais mon enfance comme une période somme toute assez joyeuse, bien qu'entachée par deux gros points noirs, principalement. Le premier, ça a été finalement de vivre un peu en décalage avec les enfants de mon âge, parce que j'avais l'impression de pas trop parler la même langue, d'être un petit peu plus grand dans ma tête, et du coup ça a été compliqué pour moi au début de mes années scolaires de m'intégrer un petit peu avec mes petits camarades. Et quand est arrivé ce diagnostic à j'avais 12-13 ans, je crois, de haut potentiel. Ça m'a grandement soulagé, parce que je me suis dit, en fait, je suis pas stupide, je suis pas différent, mais voilà, j'ai cette particularité, cette spécificité qui explique que je me sens un petit peu en décalage. Mais c'est vrai que ça a été compliqué à vivre, d'autant plus qu'avant, on appelait ça les surdoués, donc... On attendait un petit peu de toi que tu sois bon partout et que voilà, tu sois un petit génie des maths, et c'était pas du tout le cas. Moi à l'école je me faisais chier, quoi, très clairement, et je comprenais pas la logique, je comprenais pas pourquoi on devait apprendre tout par cœur. Et donc ça a pas été une partie de plaisir. Et puis forcément le deuxième point noir, ça a été ces questions un petit peu qui étaient toujours là en fond sur mon identité de genre. C'est vrai que moi, je me suis toujours considéré comme un petit garçon. J'ai jamais douté de ça. Mais forcément, avec la puberté qui arrive, c'est autre chose, quoi. On se vit un petit peu comme un petit enfant neutre pendant des années et des années. La puberté frappe. Forcément, c'est assez traumatique parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas ce qu'on pensait être depuis tant d'années. En tout cas, notre enveloppe corporelle ne reflète pas cette identité-là. Et du coup, c'est assez violent.
Tu dirais que t'as reçu une éducation non-genrée de la part de tes parents ?
Bah, j'ai reçu une éducation non genrée et je remercie grandement mes parents pour ça, parce que ma mère m'a raconté ça il y a quelques années déjà. On avait une petite estrade chez nous et moi, quand j'étais petit, je voulais qu'on m'appelle Michael parce que j'étais fan de Michael Jackson. Et du coup, il y avait une petite estrade et ma mère m'a dit, bah écoute, quand tu es sur cette estrade, tu peux être Michael, tu peux être qui tu veux. Et quand tu redescends, tu redeviens notre enfant, notre fille Morgane. Et donc du coup, j'avais un petit peu cet espace-là pour pouvoir expérimenter un petit peu mon genre. Et puis c'est vrai que ma mère m'a pas élevé comme sa fille. J'ai été assignée fille à la naissance. Mais pour autant, forcément, pendant quelques années, elle a essayé de me faire aimer le rose, de me faire aimer les robes, de me faire aimer les jeux dits de petite fille, mais elle a très rapidement compris que c'était peine perdue. Et donc du coup, elle m'a simplement élevé comme son enfant. Bah, c'était assez agréable, finalement, de ne pas devoir se poser d'étiquette et de simplement vivre sa vie de petit enfant. Ni comme un petit garçon, ni comme une petite fille, mais simplement se laisser le temps d'expérimenter et de comprendre soi-même, en tout cas, qui on était. Il faut quand même savoir que j'ai été diagnostiqué transsexuel. Voilà, un mot qui ne se dit pas, mais à l'époque, en tout cas, c'était comme ça qu'on le définissait. J'ai été diagnostiqué transsexuel à l'âge de 3 ans par un psychiatre. L'idée, c'est que j'allais chez le psy depuis peut-être mes 2 ans pour des terreurs nocturnes. Et ma psy avait dû très certainement repérer quelque chose chez moi qui lui avait mis un peu la puce à l'oreille. Et du coup, elle m'avait envoyé chez un très grand ponte de la psychiatrie parisienne. Et donc, ma mère et moi, on était dans la salle d'attente, et le psychiatre sort de son bureau, va voir sa secrétaire et lui dit qui est le prochain patient. La secrétaire lui dit c'est Morgane, et le psychiatre lui dit oui, c'est le cas du petit transsexuel. Donc là, ma mère, c'est un peu difficile à vivre pour elle, parce qu'elle a quoi ? Elle a peut-être 23-24 ans. Elle m'a eu assez jeune. Et donc, dans les années 90, c'était pas quelque chose qu'on connaissait. Voilà, ce terme transsexuel, ça peut faire un petit peu peur. D'autant plus, elle s'est dit de quel droit un médecin qui n'a pas vu mon enfant se permet de le juger de la sorte. Et c'est quelque chose qu'elle m'a dit bien plus tard, quand moi, en tout cas, je lui ai exprimé ma volonté de débuter mon parcours de transition. Elle l'a gardé pendant toutes ces années. Alors elle m'a interrogé vraiment pendant toute mon adolescence, savoir si j'avais envie d'être un garçon. Parce que voilà, j'étais assez masculin. Je me suis masculinisé assez vite, en tout cas dans mon choix de vêtements. Ces questions revenaient à de nombreuses reprises, et moi je lui disais non, tout le temps. Ça a été plutôt un choc quand on est passé un petit peu de ces questionnements, où finalement je lui disais qu'elle n'avait pas à s'inquiéter, à l'annonce de ma transidentité, où ça devenait du concret et où il fallait y aller, quoi.
Justement, donc tu avais une éducation non genrée, tes parents ne te mettaient pas la pression par rapport à ça, mais comment ça s'est passé à l'école ? Et en société en général ?
Alors j'ai toujours été considéré un petit peu par toutes les personnes qui m'entouraient, alors pas forcément ma famille, parce qu'ils n'avaient pas encore conscience de tout ça, mais en tout cas par mon cercle amical, comme leur copain. Pas comme leur copine, mais vraiment comme leur copain. Ils ne me l'exprimaient pas très clairement, il n'y avait pas de mots posés dessus, mais c'était un peu finalement un accord tacite qu'on avait les uns avec les autres. Je leur ai jamais, moi, exprimé ma volonté de faire ce parcours de transition. Néanmoins, je pense qu'ils avaient repéré déjà l'homme en moi assez rapidement, peut-être même plus rapidement que moi. Avec les garçons, j'avais des discussions dites de garçons, et avec les filles, j'étais leur pote, quoi, j'étais leur copain. C'était hyper agréable pour moi de pas devoir me justifier sur quoi que ce soit, de pas devoir me justifier, de pas devoir expliquer pourquoi il fallait me considérer de la sorte, et simplement avec nos manières de penser d'enfant, c'est hyper fluide, c'est hyper naturel, c'est comme ça, et puis voilà, on t'accepte comme t'es. Et du coup, c'était vraiment un espace dans lequel j'étais libre de pouvoir m'exprimer en tant que garçon et vivre mon enfance et mon adolescence dans le genre, si ce n'est dans l'enveloppe corporelle, en tout cas dans l'identité de genre qui me convenait.
On te laissait avoir l'expression de genre que tu voulais, mais est-ce que ça, le fait que ta mère notamment te demande régulièrement est-ce que t'as envie d'être un garçon, ça te mettait pas la puce à l'oreille par rapport à ton genre en fait?
Bah c'est assez étrange parce que pour le coup je me suis jamais posé de questions moi, ma mère m'a beaucoup posé la question est-ce que tu veux être un garçon, mais moi de mon côté je me suis jamais fait la réflexion, j'ai jamais fait d'introspection, en tout cas jusqu'à ce que j'arrive à mettre un mot dessus qui arrivait un peu du jour au lendemain, mais jamais je me suis dit bah ce que tu dis c'est un peu incohérent au vu de ton enveloppe corporelle qui du coup ne correspond pas à ton identité de genre. Mais c'est vrai que je pense que, bah, magiquement, après la puberté, ou en tout cas quand je serai adulte, que j'allais devenir un homme. Comme ça, un peu en claquant des doigts, et que c'est simplement, j'avais une sorte d'étape transitoire, où, bah, pour le moment, bah, j'étais dans cette enveloppe corporelle-là, mais qu'après, d'ici quelques années, bah, j'allais être un papa, un mari, un homme dans la société. Je m'imaginais un peu dans cette caricature avec, voilà, mon petit costard, ma petite mallette, et du coup, bah, c'était assez, ouais, assez naturel pour moi. Je me souviens de ma mère qui, un jour, est rentrée dans la salle de bain, j'étais tranquillement dans la salle de bain en train de me raser la moustache. Je devais avoir 13-14 ans, quelque chose comme ça. Et ma mère qui, bah, voilà, m'a un peu piqué une crise en me disant « Mais qu'est-ce que tu fais? Si tu continues, tu vas avoir de la moustache, tu veux pas avoir de la moustache ?» Bah moi, ça me paraissait un peu logique, parce que dans ma tête, je me suis dit « Mais c'est un peu bizarre la réflexion que tu me fais, parce que plus tard, j'aurai une barbe, donc je vois pas du tout de quoi tu me parles. » Et même à ce moment-là, je me suis pas dit que bah, cette réflexion-là était bizarre, était étrange, parce que j'étais voilà, dans un corps dit de femme, mais je me suis pas dit « Tiens, c'est bizarre que tu penses que d'ici quelques années, comme par magie, tu auras de la barbe. » Bah, j'ai pas fait plus de recherches que ça, en tout cas. J'ai pas tapé sur Google « Comment être un garçon » ou ce genre de choses. C'était, bah voilà, je vivais mon identité de genre, sans pour autant me dire qu'il y avait quelque chose de possible pour pouvoir bah, faire, en tout cas, matcher mon enveloppe corporelle avec ce que j'étais à l'intérieur.
C'est bien la preuve que tu étais à l'aise dans ton genre et dans ton corps. Tu souffrais pas de dysphorie de genre, comme on dit?
Alors, non. Pour répondre à ça, c'est pas un passage obligé de tout parcours de transidentité. Je reviendrai sur moi plus tard, mais c'est vrai que c'est hyper important de préciser ça, parce qu'on part du principe que tout parcours transidentitaire, bah forcément, s'apparente à une dysphorie de genre. En tout cas, qu'il faut ressentir de la dysphorie de genre pour être légitime en tant que personne transgenre. C'est pas du tout le cas. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la dysphorie de genre, c'est la souffrance qui, du coup, est amenée par le fait de pas se sentir en adéquation avec le genre qui nous a été assigné à la naissance. Bah, c'est vrai que ce terme-là fait assez débat dans la communauté parce que on parle encore une fois de souffrance. Bah, dans les médias, dans les films, dans les séries, c'est vrai que tous les personnages trans, bah, sont montrés et, bah, comme des personnages souffrants. Toujours, on montre de la souffrance, on montre de la douleur, on montre quelqu'un qui attend ses opérations avec impatience, ou même soit quelqu'un qui est extrêmement malheureux, alors que bah, le parcours transgenre, c'est pas que de la souffrance, c'est pas que des opérations, c'est pas que du malheur, ça peut être un parcours hyper joyeux, ça peut être un parcours finalement de reconnaissance de soi, d'affirmation de soi. C'est hyper important de propager aussi un message hyper positif par rapport à tout ça. Parce que c'est se reconnaître, se respecter dans son identité. Voilà, se dire aux yeux du monde, dire voilà, je suis un homme et va falloir faire avec. Bah, c'est hyper joyeux, je trouve, de pouvoir s'assumer comme ça et puis se vivre dans l'identité de genre qui est réellement la nôtre. Moi, c'est vrai que pendant toute mon enfance, j'ai pas ressenti de dysphorie de genre. Particulièrement parce que pour moi, j'étais pas forcément dans le mauvais corps à cette époque. Voilà, si la société nous imposait pas un modèle de corps masculin, un modèle de corps féminin, est-ce que j'aurais besoin de faire tout ce parcours-là? J'en suis pas certain. Peut-être que finalement, je suis né dans la mauvaise société et pas dans le mauvais corps. Voilà, parce qu'il y a tous ces diktats patriarcales, virilistes, qui nous imposent un schéma corporel qu'on a besoin de rentrer dans des cases, encore une fois, binaires. Comme j'ai été élevé comme un enfant assez neutre, je ressentais pas de dysphorie ou d'inadéquation avec mon corps à cette époque-là. Et c'est vraiment quand j'ai commencé à conscientiser les différences imposées par la société, bien entendu, entre les hommes et les femmes, que là, la dysphorie a commencé à frapper à ma porte. Et où c'était plus difficile pour moi, parce que ne serait-ce qu'aller à la plage, ça a commencé à être compliqué. Je me demandais pourquoi Pourquoi moi j'avais pas simplement le droit de porter un short de bain et que je devais porter un maillot de pièce et que je devais cacher mon corps. Et donc toute cette image hyper sexualisée de la femme, je l'ai un peu pris en pleine gueule au moment de la puberté. Et c'est une image qui me convenait pas du tout. Et donc du coup j'ai pris conscience de mon schéma corporel à ce moment-là. Et donc j'ai eu la nécessité de le changer pour pouvoir matcher avec ce que je ressentais à l'intérieur, avec le schéma corporel masculin imposé par la société, voilà, cette virilité hégémonique qui nous impose d'être grand, beau, fort, musclé. Du coup, moi j'ai eu besoin, ce qui n'est pas le cas vraiment de toutes les personnes trans, parce que je pense qu'il y a autant de personnes trans que de parcours différents, et donc moi, j'ai eu besoin, pour pouvoir me sentir en paix avec cette identité-là, j'ai eu besoin de passer par plusieurs opérations, et aussi bien physiques que sociales, pour pouvoir être bien dans mon identité d'homme. Ouais, peut-être aussi pour avoir une légitimité aussi aux yeux de la société, pour que la société me regarde enfin comme un homme. Après, il y a tout un éventail de parcours trans, tout un éventail de possibilités et de voies à prendre ou à ne pas prendre. Et l'idée, c'est que chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut, en fonction de ses besoins, de ses nécessités, quant à l'expression de son identité de genre. Moi, j'ai eu besoin de passer par toutes ces opérations-là, mais encore une fois, c'est pas le cas pour tout le monde, et c'est ok, et on n'est pas plus légitime, plus ou moins légitime, si on a fait ces opérations-là.
En fait, cette attente sociétale est devenue un besoin personnel.
Tout à fait.
T'as totalement intégré cette injonction à la masculinité.
Ouais.
Surtout en vrai, c'est la période où t'es ado, donc t'es influençable et influencé, c'est normal.
Voilà, trans, c'est un terme qui est parapluie pour désigner à la fois les trans dits binaires qui, du coup, se reconnaissent dans le genre opposé à celui qui leur a été assigné à la naissance, et les trans dits non-binaires qui, pour le coup, refusent de se mettre dans une ou l'autre des cases. Et donc, on n'est pas obligé de ressentir de la dysphorie, on n'est pas obligé de ne pas être OK avec l'enveloppe corporelle qui nous a été donnée à la naissance. On n'est pas non plus obligé de passer par toutes les interventions chirurgicales pour pouvoir s'assumer dans son identité d'homme ou de femme. Notre identité d'homme ou notre identité de femme ne se définit pas par rapport à ce qu'on a dans le slip, et donc... Faire les interventions, on s'en fout, quoi. À partir du moment où nous, on est OK avec ce qu'on est, avec ce qu'on renvoie, avec ce que la société nous renvoie, et qu'on est plutôt en paix avec tout ça, c'est le principal.
Et on peut même envoyer la suspect se faire foutre et on n'avoir rien à faire de ce qu'elle pense de nous.
Tout à fait.
T'étais à l'aise dans ton genre, dans ton corps, jusqu'à ce que tu réalises ta transidentité. Et avant ça, comment est-ce que tu relationnais avec les autres d'un point de vue sentimental, romantique, voire sexuel?
C'est vrai que je me suis d'abord assumée lesbienne. Du coup, forcément, avant de m'assumer transgenre, j'étais une lesbienne vraiment hyper fière, c'est-à-dire que je faisais un peu du militantisme avant l'heure, je le criais un peu sur tous les toits, et j'assumais vraiment mon attirance à l'époque pour les femmes, et c'était vraiment pas un secret pour personne, et je m'en cachais pas du tout. J'ai toujours été finalement une lesbienne assez masculine. C'est-à-dire que je suis jamais vraiment rentré dans les codes de la féminité, aussi bien du coup pré-transition qu'après. J'ai toujours été considéré un peu soit comme un garçon manqué. Alors je déteste cette expression vraiment, mais c'est un peu comme si les femmes leur manquaient quelque chose, à savoir le génital, donc le pénis, et que c'était du coup des sous-hommes. Mais bon, ça c'est un autre débat, c'est une expression qui m'horripile, mais qui malheureusement... est bien trop souvent utilisé, et c'est d'ailleurs ce qu'on me renvoyait. Moi, quand j'étais enfant et quand j'étais ado, j'étais un petit garçon manqué. Finalement, on m'a jamais sous-considéré, parce que je me suis jamais rapproché de la féminité, en fait. Que j'ai même pas eu à faire de coming out à mes parents. Ils l'ont trouvé parce que quand j'étais au collège, au lycée, je bavardais beaucoup, et je bavardais aussi beaucoup par petits mots. Et donc je me changeais j'ai changé des petits mots avec je sais plus qui parlait d'une copine à moi de l'époque, et donc c'est un peu comme ça qu'ils l'ont découvert. Donc j'ai pas eu cette épreuve difficile du coming out. Ça a été assez accepté assez rapidement par l'intégralité de ma famille, excepté mon arrière-grand-mère maternelle qui m'avait dit à l'époque d'aller me faire exorciser. Mais je l'ai pris plutôt à la rigolade, parce que elle était d'un certain âge, et que c'était une autre époque, dirons-nous. Bah ouais, j'avais une vie sociale et en tout cas, j'étais vachement plus extraverti que je ne le suis, que je ne le suis actuellement. Je pense que j'étais heureux parce que c'était finalement une vie sentimentale qui était totalement assumée. En fait, mon identité était un peu une identité lesbienne. C'est-à-dire que j'étais ni homme ni femme, il n'y avait pas d'identité de genre encore qui se posait à ce moment-là. C'était vraiment plutôt une identité de genre qui gravitait autour de ma sexualité à l'époque. Bah, du coup, c'était plutôt simple et plutôt aisé. Et donc, pour répondre à ta question, moi, je pense que j'étais heureux à cette époque-là.
C'est magnifique, tu dis que les lesbiennes ne sont pas des femmes. Mais ouais, c'est hyper intéressant parce que tu sors de schéma hétérosexiste et dès qu'il n'y a pas d'homme dans l'équation, bah, en fait, tu pouvais être heureux, quoi, tant pis. Enfin bref. on va mettre les pieds dans le plat de ta transidentité, comment s'est passé ton coming out trans si t'en as fait un d'ailleurs.
J'ai pris conscience, moi, de ma transidentité, j'avais 16 ans. Pour vous expliquer un peu le contexte, on était en Israël, c'était le soir de l'anniversaire de ma grand-mère maternelle, on était tous au restaurant, et du coup, l'année, donc c'était 2010. L'année où la ministre de la Santé avait reconnu que du coup être trans ce n'était plus une maladie psychiatrique. Donc il était un petit peu temps. Mais en tout cas, on avait un débat, je ne sais plus du tout comment c'est arrivé sur la table, mais on avait un débat tous ensemble sur est-ce que les trans sont des malades mentaux ou pas. Débat très étrange déjà. Mais moi vraiment je me suis battu bec et ongles pour défendre cette cause-là. Non, ce n'est pas des malades mentaux. C'est simplement voilà qui sont nés dans la mauvaise société et que la société n'est pas encore suffisamment évoluée pour les accueillir et être bienveillant avec eux. Pendant tout le trajet retour à l'appartement qu'on avait, je me suis demandé mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es vraiment pris de passion pour ce sujet? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui a fait que tu les défendais comme ça? Et du coup, bon, je me suis dit, bon, peut-être que t'es quand même un peu masculin, peut-être que ça te concerne. Et je me disais, non, c'est pas possible. J'aurais pas été aveugle, en tout cas, autant d'années. Et du coup, le soir, je me couche tranquillement, et le lendemain, je me réveille, et je pleure toutes les larmes de mon corps, parce que je comprends que c'est ça, en fait. Et j'arrive enfin à mettre un mot sur le mal-être lancinant qui était là depuis des années et des années. Je sais pas si j'ai vraiment bien fait, mais directement j'ouvre Google et je cherche un petit peu quel est le parcours de transition, en tout cas comment Google l'explique, puisque Google a toutes les réponses. Et j'ai un peu pris peur. J'ai pris peur pour deux raisons. La première, c'est j'ai pris peur de la bombe en fait qui venait un petit peu de s'écraser sur ma vie, parce que je me suis dit ça va totalement bouleverser l'intégralité de mes rapports, aussi bien que j'ai avec moi-même, que j'ai avec les autres, que j'ai avec la société, que j'ai avec ma famille et avec mon entourage. Et aussi, j'ai pris peur devant l'étendue immense du parcours qui m'attendait, aussi bien du parcours social que du parcours médical. Et je continuais à pleurer, à pleurer, à pleurer. Je pense que j'ai vraiment pleuré des litres et des litres ce jour-là. Et je suis sorti de ma chambre et je suis allé dans la chambre de ma grand-mère qui s'y trouvait. Et elle m'a dit, écoute, Morgane, t'as pas besoin de me dire, je sais. Et donc là, j'ai pleuré de plus belle. Je pense que j'ai pleuré de soulagement de pas devoir m'expliquer sur ce qui me traversait, ce qui me chamboulait à ce moment-là. Et là, ma mère est rentrée dans la chambre et ça a été une autre histoire. Parce que pour le coup, elle ne savait pas du tout, elle ne s'attendait pas à cette nouvelle-là ce jour-ci. Et donc c'est ma grand-mère qui lui a expliqué un petit peu, parce que moi, je ne pouvais pas parler du tout, je pleurais beaucoup trop. Et donc ma grand-mère a essayé de lui expliquer avec ses mots, elle. Et ma mère au début, elle n'a pas compris, elle n'a pas compris, parce que elle m'a posé plusieurs fois la question de « est-ce que tu as envie d'être un homme? » Et à chaque fois que je répondais non. Je pense qu'au départ, elle s'est dit, bon, c'est un peu une lubie d'adolescence, c'est vrai qu'à cette époque-là, on se cherche un peu au niveau de notre identité. Elle est lesbienne, elle est un petit peu masculine, donc je pense qu'elle a fait cet amalgame-là à l'époque. Et qu'elle s'est dit que voilà, ça me passerait très certainement. Pour le reste de ma famille, pour mon père, il en était hors de question quand je lui ai dit. J'étais sa fille et du coup, non, il était hors de question que je m'inscrive dans ce parcours-là. Pour ma sœur, ça a été assez mignon parce que pour le coup, je l'avais un peu convoquée au restaurant quand j'étais rentré en France, parce qu'il fallait que je lui annonce, parce que c'était important pour moi déjà qu'elle commence un petit peu à bien me genrer au masculin et puis qu'elle sache un petit peu ce qui se passe pour moi dans ma vie, parce qu'on est assez proche avec ma sœur, donc je l'avais convoquée au restaurant et du coup, j'étais hyper stressé. J'étais vraiment hyper stressé parce que je me suis dit si je la perds. Je vais être hyper triste, quoi. Je vais être vraiment hyper triste parce qu'on a toujours été hyper fusionnels. Et bah, elle a eu une, voilà, une réaction qui était bah, à la fois maladroite et à la fois hyper touchante, parce qu'elle m'a dit, bon bah voilà, le temps que je m'y fasse un peu, bah, tu seras mon frère, donc frère plus sœur. Et du coup, voilà, c'était une période de transition où elle s'est adaptée, elle a essayé de, voilà, de faire des efforts, en tout cas pour essayer de me genrer au maximum au masculin. Et voilà, maintenant, en tout cas, je suis son frère, il n'y a aucune espèce de souci. Pour les autres membres de ma famille, ça a été assez naturel. Finalement, ils m'ont suivi. Et je reconnais que j'ai énormément de chance, parce que c'est vraiment pas le cas de tous mes adelfes trans. Je considère vraiment ça comme un cadeau. Alors, ça devrait pas être un cadeau, parce que toutes les familles devraient être acceptantes et aimantes. Néanmoins, bah, y en a beaucoup qui se font pas accepter par leur famille, qui se font renier. Et vraiment, je chéris l'acceptation qu'a eu ma famille. Et c'est fou quand même de devoir considérer comme un cadeau l'amour de ses proches. Mais bah, voilà, c'est comme ça. Avec mon père, ça a été compliqué pendant pas mal de temps. On a vécu, bah, parce que du coup, on vivait sous le même toit, mais on ne faisait que vivre sous le même toit. On a vécu en colocation, je dirais, pendant les 6-8 mois, entre le temps du coup de mon annonce, de mon coming out, et le temps qu'ils se rendent compte un petit peu bah, de ce que ça impliquait, finalement, de pas me parler, parce qu'on se parlait pas du tout. On vivait ensemble, mais il n'y avait pas de communication. Et Lady Gaga est arrivée. Et donc Lady Gaga est arrivée et a sauvé un petit peu finalement bah, la relation, bah, ma relation avec mon père. Parce que bah, à cette époque-là, Lady Gaga sort son album Born This Way, avec le single Born This Way du coup. Et pour son clip, elle avait recruté des danseurs trans. Et donc mon père, un jour, un peu venu de nulle part, je reçois un petit texto de sa part qui me dit « Ah, tu savais que bah, pour son clip, Lady Gaga avait recruté des danseurs trans ?» Et donc bah, c'était une manière un peu maladroite de dire « Bon bah voilà, j'ai été un petit peu con, viens on discute. » Et depuis, bah, c'est vraiment mon plus grand défenseur. Voilà, il me considère comme son fils et il n'y a aucun problème. Et que celui qui contredit tout ça voilà, aura affaire à lui.
Et comment est-ce que tu dirais que ta transition s'est passée?
Ce qui s'est passé après mon coming out, c'est que j'ai été voir une psy, pas une psychiatre, mais une psychothérapeute, pour bah, à la base faire plaisir à mes parents. Pour leur faire plaisir, tout simplement, pour bah, qu'ils comprennent que c'était pas une lubie, que c'était pas un fantasme d'adolescent, que ça allait pas passer dans 2 jours, 2 mois ou 2 ans, et que c'était vraiment un mal-être profond et un véritable questionnement identitaire qu'il était nécessaire de prendre en compte. Du coup, bah, j'ai été voir cette psy qui a confirmé un petit peu tout ça. Mais ce qui s'est passé, c'est que mes parents n'en ont rien fait. Donc pendant des mois, il y avait ce diagnostic, si on peut appeler ça un diagnostic, ou en tout cas cette confirmation de la psy qui était là, qui était validée. Et ça a été archi souffrant pour moi, parce que bah, je me disais, je leur ai exprimé quand même mon mal-être. Je leur ai exprimé ma volonté de me lancer dans ce parcours-là. Et surtout, bah, le fait que c'était légitime et qu'il fallait faire quelque chose. Il y a même une professionnelle qui a validé ma pensée. Et bah, ils n'ont rien fait et pendant plusieurs mois. Et c'est devenu assez, assez compliqué à gérer au quotidien, d'autant plus que bah, à cette époque-là, j'étais encore au lycée. Et qu'à mon lycée, les profs avaient la fâcheuse habitude de nous appeler monsieur et mademoiselle. Donc je me prenais des mademoiselles toute la journée, toute la journée, toute la journée, et au bout d'un moment j'ai craqué, c'était devenu beaucoup trop pour moi. Et donc j'habitais un appartement avec un balcon, et bah, un jour après l'école je me suis retrouvé sur ce balcon, et voilà, c'était soit je sautais parce que je n'en pouvais plus et il fallait que ça s'arrête, cette souffrance qui commençait vraiment à me ronger de l'intérieur, soit j'appelais ma mère. Et du coup, bah, comme je suis encore là, j'ai appelé ma mère. Et je pense qu'à ce moment-là, elle a compris bah, qu'il fallait qu'elle agisse. Et que c'était voilà, hyper important de faire quelque chose et de commencer, en tout cas, bah, de commencer des démarches. Et le lendemain, c'était le 2 février, je m'en souviens, parce que le 2 février, c'est le jour de ma conception. Et le jour de ma conception, du coup, elle m'a laissé bah, une très belle lettre avant de partir travailler, qui disait en gros, bah voilà, parfois la nature se trompe, c'est ce qui s'est passé avec toi, et bah maintenant va vie et deviens, et je te suis, et on y va, et on est ensemble. Et bah, c'était un soulagement, parce que j'avais aussi besoin de cette reconnaissance de la part de ma mère, une reconnaissance à la fois de mon identité et de ma souffrance. Et du coup, cette lettre-là est venue vraiment panser beaucoup, beaucoup de blessures. Et à partir de ce moment-là, on a vraiment fait toutes les démarches. Donc j'ai été voir un psychiatre. Un premier psychiatre qui m'a reçu comme un psychiatre, quoi. Donc pas de manière extrêmement agréable. D'autant plus que c'était à la base normalement un psychiatre qui était un peu censé s'y connaître sur les questions de transidentité, et un psychiatre qui du coup utilise les mots de les termes comme transsexuel. On est déjà assez suffisamment, on a une charge mentale suffisamment importante avec avec tout notre quotidien, on n'a pas non plus le temps d'éduquer des professionnels qui sont censés être au fait de ces questions-là et censés utiliser les bons termes. Parce que le terme transsexuel peut être extrêmement, extrêmement violent. Je m'explique, on ne dit pas transsexuel pour une simple raison. La première, c'est que c'est un terme qui est extrêmement pathologisant parce que il renvoie au transsexualisme. Le transsexualisme, du coup, c'est le nom de la pathologie qu'on nous a collé dessus dans les années 50, que les psychiatres nous ont collé dessus pour pouvoir expliquer nos troubles. Ce qui sous-entend du coup qu'on souffrirait d'une maladie psychiatrique, et bien évidemment ce n'est pas le cas, quoique ce soit encore dans de nombreux manuels de psychiatrie. Là ils vont l'enlever en 2022, il n'est pas trop... c'est un petit peu tard, mais bon. Donc, c'est pathologisant à mort, et c'est extrêmement pesant d'être... on est regardé un petit peu comme des bêtes de foire, et si en plus on est des malades mentaux, ça rajoute de la pression au niveau de la société. C'est un terme aussi qui renvoie beaucoup, beaucoup au sexuel, et du coup qui nous hypersexualise. Et c'est pas du tout l'image qu'on a envie de renvoyer. Il nous hypersexualise pourquoi? Parce que forcément, il y a l'amalgame que aussi toute personne trans est TDS. Et il y a aussi cet amalgame que on dit transsexuel comme on dit homosexuel. Et donc du coup, on parle d'une identité de genre comme on parle d'une orientation sexuelle. Et c'est vraiment deux choses qui n'ont strictement rien à voir. Et je pense qu'il est temps que les gens comprennent que c'est pas un terme à privilégier quand on parle de transidentité, et qu'il est nécessaire de se renseigner un petit peu sur le lexique pour pouvoir ne pas traumatiser les gens qui se reçoivent en pleine gueule, quoi, parce que ça peut être hyper violent. Donc du coup, je suis allé voir un psychiatre qui était vraiment pas éduqué sur la question, que j'ai un peu viré de mon parcours de transition, parce que c'était devenu assez insupportable. Il me disait, vous avez 17 ans, vous avez quand même encore le temps pour avoir une voix grave, vous avez encore le temps pour avoir de la barbe, vous avez encore le temps pour vous masculiniser. Et moi, c'est vrai qu'à côté, tous mes copains avaient déjà vécu leur puberté, et donc moi, je ressemblais un peu à un mec de 13 piges, et du coup j'avais hâte quand même de pouvoir avoir cette seconde puberté là. Et puis de toute manière, qui il est pour savoir de quoi j'ai besoin, et de surtout de décider de la temporalité de mes besoins. Et voilà, c'est pour ça que c'est hyper important de rentrer là, ça y est, en 2020. Je pense qu'il est important que les professionnels de la santé puissent laisser une plus grande part à l'autodétermination des personnes trans plutôt qu'à une détermination faite par des professionnels qui ne s'y connaissent pas du tout. Voilà, après, forcément, on m'a fait passer quelques tests, on m'a du coup accordé la prise d'hormones, j'ai vécu ma seconde puberté qui était vraiment... Ça a été une renaissance, mais ça a été une renaissance plus que parce que j'avais des caractères sexuels secondaires masculins qui apparaissaient sur mon corps. C'était pas forcément par rapport à moi, mon rapport à mon corps, mais c'était plus par rapport à ce que la société me renvoyait de ce qu'elle voyait de mon corps. Et du coup, qu'elle commençait petit à petit à m'accepter en tant qu'homme dans la société parce que je rentrais dans leur case au niveau corporel. Et du coup, ne plus devoir se justifier sur son identité avec les effets de la testostérone, ne plus répondre à l'éternelle question de « Mais toi, est-ce que t'es un homme? Est-ce que t'es une femme ?» D'une, ça ne te regarde pas, et puis c'est extrêmement fatigant et extrêmement pesant de devoir répondre à ces questions tous les jours, tous les jours, tous les jours, puisque forcément, à un moment donné, on est en transition, donc on a aussi un physique qui est entre les deux, et donc du coup qui amène, bien évidemment, de manière totalement injuste, les personnes, très souvent cisgenres, à s'interroger sur notre identité de genre. Pourquoi c'est si important, en fait, de savoir si une personne est un homme ou si c'est une femme? En fait, c'est la première chose qu'on voit quand on rencontre quelqu'un, quand on salue quelqu'un, on dit madame, on dit monsieur. Je pense que les gens sont assez obsédés par ça. J'ai l'impression que ça les perturbe beaucoup quand quelqu'un est entre les deux, quand quelqu'un est androgyne. Voilà, l'identité, c'est un fait, c'est écrit sur notre carte d'identité. Et du coup, quand on vient bousculer un petit peu la fourmilière, quand on vient mettre un petit coup de pied, plus rien semble établi pour eux. Et du coup, ça les met en insécurité extrême. Et donc, cette insécurité-là se transforme en violence à notre égard.
Elle en manque d'attention, là.
Je comprends.
C'est un appel. Non, mais descendre là, c'est même pas hygiénique.
C'est assez lassant de se dire qu'on doit toujours rentrer dans des schémas binaires pour pouvoir être exempté de questions intrusives. C'est un peu ce qui se passe, d'ailleurs, quand on fait notre changement de prénom, notre changement d'état civil. C'est-à-dire que c'est un peu... moi, je compare ça assez souvent à quand on voit, dans beaucoup, encore beaucoup trop de pays, une assemblée d'hommes blancs, cisgenres, qui se réunit pour discuter des droits des femmes et de leur utérus. En fait, ça ne te concerne pas, donc tu n'as pas ton mot à dire. Et c'est un peu la même chose qui se passe par rapport au changement d'identité et aux droits des trans. C'est-à-dire que c'est des personnes cisgenres qui se réunissent pour décider si oui ou non ton identité est valide. Donc c'est des personnes qui n'y connaissent rien, c'est des personnes qui sont extérieures à notre entourage, donc des personnes qui ne nous connaissent pas. Et d'autant plus, quand on fait une procédure de changement d'état civil, notre autodétermination ne leur suffit pas. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire « Bon bah voilà, j'ai commencé un parcours de transition, je suis un homme, changer mes papiers d'identité parce que c'est logique et ça fait sens. » Non, bien entendu, la société, la justice, va nous demander d'avoir des témoignages de personnes de notre entourage, de personnes de notre travail, par exemple, de notre cercle amical ou de notre cercle familial, qui vont venir appuyer le fait qu'on vit bien en tant qu'homme dans la société, qu'on est considéré en tant que tel. Et donc, du coup, une assemblée de personnes cisgenres va demander à d'autres personnes cisgenres si on est quand même bien ce qu'on dit être. Donc c'est n'importe quoi. C'est quand même n'importe quoi. C'est vraiment de la complaisance entre personnes cisgenres. Et c'est insupportable, quoi. Parce que du coup, notre parole n'a aucune valeur parce qu'on n'est pas de leur côté. C'est vraiment à la fois nous infantiliser et nous enlever toute espèce
agentivité, d'indépendance.
C'est à la fois nous infantiliser, à la fois nous enlever toute espèce d'indépendance. En fait, c'est pas à nous de choisir qui on est, c'est à eux de se réunir et de choisir notre place. D'autant plus que moi, quand j'ai fait mon changement d'identité, donc ma demande de changement d'état civil, c'était avant 2016, et avant 2016, il nous était demandé de passer par une opération de stérilisation. Donc on devait être stérile pour pouvoir obtenir nos papiers. Donc c'est hyper violent. C'est quand même hyper violent de nous demander une mutilation simplement pour avoir le droit d'être reconnu par la société comme un homme ou comme une femme. Je suis hyper en colère contre un système qui nous oblige à rentrer dans des cases, tout simplement parce qu'il est beaucoup trop effrayé qu'on en sorte, et beaucoup trop effrayé de plus pouvoir contrôler sa population si jamais elle sort un petit peu de ce schéma binaire qui contrôle un petit peu les masses, ce schéma de dominant-dominé. C'est bon, quoi, c'est agaçant.
X, Y, on peut naître sous X, se sentir Y, 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 et moi, maman de X à Y, qui je suis. Oublie l'échelle à Richter, il a abandonné. Ma terre, elle tremble dans tous les sens, sauf dans celui qui connaît. X, 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 Y, j'ai coupé mon corps en deux. Fallait que je comprenne avec mes yeux, qu'est-ce que j'ai vu. Je suis pas possible à trier. X, 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 Y, je me suis perdue dans des supermarchés. À chercher quoi? À chercher quoi? Si tu peux pas t'appuyer dans ce bordel, pas possible à te fier, alors à quoi je sers? À quoi je sers? Si tu m'aimes, si j'ai tort,
Justement, quand tu as obtenu ton changement d'état civil, tu avais 18 ans. Qu'est-ce que ça implique de commencer sa transition quand on est mineur ?
Alors, il faut savoir qu'en France, c'est encore très difficile de démarrer sa transition quand on n'est pas majeur. Parce qu'ils partent du principe que un enfant ne peut pas être sûr de son identité. Donc du coup, il faut forcément qu'un adulte, donc à savoir une autorité parentale, accompagne le jeune pour pouvoir attester de la véracité de ce qu'il est en train de dire. La véracité, elle est en nous, peu importe l'âge qu'on a. Je pense qu'il n'y a personne de mieux placé que nous pour savoir qui on est. Sauf que l'État part du principe que tant qu'on n'a pas 18 ans, on ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas qui on est. Donc il y a encore trop peu de services qui acceptent de prendre en charge les personnes mineures. Moi, c'est vrai que j'ai eu plutôt pas mal de chance par rapport à ça, parce que comme j'ai réalisé que j'étais trans, j'avais 16 ans, j'ai réussi par un miracle, parce que j'ai rencontré le bon psychiatre qui, lui, savait bien faire son travail, à obtenir les hormones à 17 ans, donc avant ma majorité. Mais du coup, pour ceux qui se rendent compte bien avant, c'est hyper souffrant parce qu'ils sont pas pris en charge. Ils sont pas écoutés et ils sont pas pris en charge. Moi, quand j'ai réussi à obtenir mon changement d'état civil, ça a été vraiment un soulagement parce que c'est une galère au quotidien. Quand t'as pas tes papiers, c'est un peu comme si t'étais sans papiers, finalement, parce que on t'accuse tout le temps, d'avoir volé l'identité de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que, par exemple, pour des gestes, des activités du quotidien qui, somme toute, paraissent assez anodines et sont faits sans réfléchir par la plupart des personnes dans la société. Nous, en tant que trans, en tout cas quand on n'a pas nos papiers, c'est des activités auxquelles il faut qu'on réfléchisse en amont. Je vais vous donner quelques petits exemples. Par exemple, quand on va à la poste et qu'on a reçu un colis et que du coup on présente notre carte d'identité, je me suis pris à de maintes et maintes reprises une réflexion de monsieur, c'est pas vous sur la carte. Et du coup, il y a 20 personnes qui attendent derrière toi, et t'es obligé de lui expliquer ton parcours, et que si c'est bien toi, et que oui, la photo elle date un petit peu, et que je ressemble pas, et qu'il y a un F sur ma carte, mais que c'est bien moi, et donc c'est...
Auprès d'une inconnue, en plus.
Auprès de quelqu'un que tu ne connais pas. Donc t'es obligé de justifier de ton identité auprès d'une de quelqu'un que tu ne connais pas. Et puis, c'est hyper intime, c'est hyper personnel. Et du coup, t'es obligé d'étaler ta vie comme ça, dans un endroit public, simplement parce que la justice ne t'a pas encore accordé ce petit M sur ta carte, et que du coup on pense que t'as totalement volé la carte de quelqu'un d'autre, et on n'a pas que ça à foutre. Et puis ne serait-ce que par exemple à la banque, par exemple quand tu voyages à la douane, quand ton passeport il est encore à ton ancien prénom, même chez le médecin, il y a encore de trop nombreux adelphes qui du coup ne vont plus chez le médecin parce qu'ils ont peur que la secrétaire les appelle par leur dead name ou les majors, et du coup ils se privent de soins tout simplement pour ne pas avoir à affronter quelque chose qui pourrait être très souffrant pour eux, et faire monter des crises dysphoriques. Il est grand temps que la procédure de changement d'état civil soit revue et corrigée, et que l'autodétermination prenne le pas sur la décision par une assemblée d'inconnus qui, en plus, ne connaît pas le sujet. Après forcément mon changement d'état civil, j'ai fait les opérations parce que j'avais besoin de les faire. Ça s'est pas forcément très bien passé pour moi, j'ai eu pas mal de complications à chaque fois. Néanmoins, je regrette pas, parce que je considère vraiment les 5, 6, 7 ans de parcours que j'ai vécu comme un parcours du combattant. Parce que ça a été des galères, aussi bien sociales qu'administratives que médicales. Mais je considère que je serais très certainement pas l'homme que je suis aujourd'hui, et j'aurais très certainement pris d'autres directions. Si j'avais pas eu tout ça, je pense que ça m'a aussi renforcé. Jamais je me suis dit je vais abandonner, jamais je me suis dit, il n'a jamais été question d'abandon, parce que pour moi il était nécessaire d'aller jusqu'au bout et de me prouver en tout cas que je pouvais aller jusqu'au bout. Bien évidemment, j'ai été hyper entouré, et c'est aussi la force de tout cet entourage qui m'a porté, et je les en remercie encore.
En parlant d'entourage, est-ce que ça a une influence sur ta vie sentimentale ?
Alors, j'ai rencontré la femme avec qui je suis actuellement depuis... Bah, cette année, ça va faire 10 ans, donc ça fait un sacré bail. Je l'ai rencontrée 6 mois avant de débuter mon parcours. C'est-à-dire que moi, j'étais en première, j'avais retapé ma première, et elle venait d'un autre lycée. Donc, c'est-à-dire qu'elle ne me connaissait pas avant. Bah, dès que je l'ai rencontrée, il n'y a pas eu aucune espèce de once de doute pour elle. J'étais un garçon. Elle pensait d'ailleurs même que j'étais un garçon cisgenre. Alors que j'étais pas du tout sous traitement hormonal ou ce genre de choses, mais pour elle, ça coulait de source. Et même, du coup, les personnes qui n'étaient pas encore forcément au courant de mes démarches pour commencer le parcours identitaire, qui m'avaient du coup connu pré-transition, qui me disaient « elle », elle allait les voir et elle leur disait « mais en fait, je comprends pas pourquoi vous lui dites « elle » alors que c'est un garçon ». C'est la première personne qui m'a considéré comme un homme. Elle m'a accompagné vraiment pendant tout mon parcours de transition. Quand on s'est rencontrés, elle avait 16 ans, donc c'est quand même un poids assez lourd à porter pour une ado de 16 ans. Et pourtant, elle a été vraiment mon rock, quoi. Il était pour moi hyper important de lui rendre tout ça, toute cette force qu'elle m'avait donnée, en étant l'homme qu'elle méritait, tout simplement. J'avais envie de pouvoir la remercier comme ça, en tout cas en étant un bon partenaire de vie.
Oui, non, j'allais dire, et puis même si t'avais pas été trans, je pense qu'elle méritait un mec bien aussi. T'as débuté ta transition à une période charnière où t'allais bientôt passer le bac, t'as retapé ta première et t'allais débuter tes études supérieures éventuelles. Est-ce que ça a eu un impact sur le métier que tu te rêvais de faire et sur le futur que tu t'imaginais ?
Tout à fait, ça a un peu bouleversé mes plans. J'ai commencé ma transition, donc ce qui impliquait finalement des changements aussi bien administratifs que physiques, avec la prise d'hormones, avec les chirurgies. C'était un corps en transformation tardive. Donc du coup, il a fallu que moi, je m'adapte à mon nouveau schéma corporel à une époque, comme tu le dis, qui était charnière, parce qu'il y avait pas mal d'enjeux à cette époque-là. On me demande à 18 ans de savoir ce que tu as envie de faire. Essayer de devenir qui j'étais et en même temps de savoir qui j'avais envie de devenir professionnellement, c'était un peu deux questionnements qui demandaient beaucoup, beaucoup de réflexion. Alors, les choix que j'ai faits à cette époque-là, en tout cas au niveau professionnel, sont pas du tout... je fais pas du tout le même métier aujourd'hui par rapport au métier auquel je me destinais à 18 ans. C'est-à-dire que j'ai commencé par faire de la pub, de la prod, bosser pour des émissions comme The Voice, ce genre de choses. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était pas ce qui me plaisait forcément, c'est-à-dire que ça manquait cruellement de lien à l'autre. Et j'avais vraiment besoin d'un métier où je pouvais être en contact et en relation avec les gens. Et là, c'était extrêmement superficiel. Au même moment que ma phalloplastie, donc la dernière intervention chirurgicale que j'ai fait par rapport à mon parcours, qui, pour le coup, j'ai eu pas mal de complications post-opératoires. Et à ce moment-là, pendant 2 ans à peu près, j'ai oscillé entre les hôpitaux et les périodes de convalescence. Du coup, ça m'a donné aussi 2 ans pour me permettre de réfléchir un petit peu sur moi-même, sur ce que j'avais vraiment envie de faire, sur qui je voulais devenir, sur la voie professionnelle que je voulais choisir et sur le sens, en tout cas, que je voulais donner à mon métier. Et du coup, je suis un peu passé du tout au tout parce que je me suis orienté après vers des études de psy, donc qui n'ont rien à voir et qui, pour le coup, me correspondent beaucoup mieux. Mais c'est vrai que socialement, ça a été difficile parce que j'étais en études supérieures, sauf que je ratais pas mal de cours au vu des hospitalisations. Et donc, au niveau de la sociabilisation, je ne pouvais pas vraiment avoir une vie de jeune de mon âge, je ne pouvais pas profiter, je ne pouvais pas être insouciant parce qu'il y avait toujours ce parcours en fond qui m'imposait des choses et qui m'empêchait de vivre pas mal d'expériences au vu de mon âge. Voilà. Donc je dirais pas que j'ai perdu une partie de ma jeunesse parce que ça m'a permis d'être finalement pleinement moi, mais je dirais que j'ai peut-être raté quelques expériences. Après, j'essaye de me rattraper maintenant. Mais voilà, c'était une période qui a été socialement compliquée parce que forcément, après c'était auto-infligé, mais il y avait beaucoup, beaucoup d'ostracisation. J'étais vraiment assez seul à cette période-là parce que je pouvais pas sortir, je pouvais voir personne. C'était vraiment hôpitaux. Ouais, ça a laissé quelques petites séquelles, je dirais.
Le corps nu sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, pas envie de la retirer. Y a pas de place pour les fables, y a pas de place pour les regrets. Le cœur sur le sol, relève-toi, faut pas déconner. J'ai ce bruit dans ma tête et j'aimerais que ça cesse, mais en vain. J'ouvre un peu les yeux, des couleurs, des photos me reviennent. Tous ces bruits dans ma tête, faut que ça cesse. J'ai perdu la tête, où est le chemin de ma maison? Quoi qu'il advienne, je retrouverai les clés de la raison.
Le fait que t'aies une copine qui était nouvelle dans le lycée, qui t'a tout de suite perçue comme un garçon, et le fait que, en même temps, à côté de ça, t'avais absolument envie de passer par des opérations physiques, qu'est-ce que ça dit de ton passing et qu'est-ce que ça dit de l'injonction que t'avais intégrée peut-être de ce que c'est qu'être un homme?
Au début de ma transition, pour moi, il était impératif de rentrer dans ces schémas virils, en tout cas de corps viril, pour pouvoir m'intégrer à la société en tant qu'homme parmi les hommes. Je me suis dit, voilà, si t'as un corps tout frêle, déjà que t'es pas très très grand, voilà, il faut que tu t'imposes, en tout cas dans un schéma corporel qui ne laissera aucun doute à qui que ce soit. Et pour moi, ne laisser aucun doute à qui que ce soit, c'était finalement rejoindre quelque chose que j'étais pas du tout, à savoir un homme hyper macho, hyper viril, et c'est pas ce que je suis. C'est plus du tout le cas maintenant, mais c'est vrai qu'au début de mon parcours, j'avais, je pense, inconsciemment intégré toutes ces injonctions à la virilité, au corps viril et au corps hyper masculin.
Et dominant aussi, quelque part.
Et dominant. Aussi, effectivement, j'avais plus que la volonté d'un physique masculin, j'avais aussi la volonté limite, et ça vraiment m'écorche la bouche de le dire aujourd'hui, parce que je suis vraiment un féministe repenti et un allié de la première heure. Mais c'est vrai que je me disais, pour qu'on puisse m'accepter comme un homme dans la société, il faut que je réponde à tout ça. Et pour répondre à tout ça, il faut donc que je réponde aux critères corporels virils et également à la manière dont la société attend qu'un homme se comporte. Et donc, je le reconnais et je m'en veux terriblement, mais j'ai eu des comportements qui pour être un peu considéré comme macho à l'époque, parce que je me suis dit, à un moment donné, pour te faire reconnaître par la société, il faut que tu poses tes couilles sur la table. Sauf que je me suis rendu compte, alors ça m'a pris des années, de déconstruction un petit peu de tout ce mythe viril. Je me suis rendu compte que on pouvait les laisser dans notre slip et que c'était très très bien comme ça. Pendant des années, j'ai vraiment essayé de ressembler à quelque chose que je n'étais pas, parce que intrinsèquement, je suis pas comme ça du tout. Et maintenant, je dirais que en tout cas, l'homme que je suis, que j'aspire à devenir, c'est assumer toute cette pluralité de masculin et de féminin. Parler de masculinité avec un S, plurielle, singulière et merveilleuse. Et puis surtout, être un homme, c'est être une femme aussi, être OK avec ça. Et ça a été tout un travail de déconstruction. Néanmoins, j'avais l'impression à l'époque qu'il fallait que j'aie un cis-passing. Petite traduction du coup, cis-passing, c'est le fait d'être considéré comme une personne cisgenre au premier coup d'œil. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'ai un cis-passing pour pouvoir être accepté et être reconnu par la société comme un homme. Et ce qui, aujourd'hui, ça me passe un peu au-dessus, mais malheureusement, c'était mes croyances de l'époque.
Ouais. Dans quelle mesure le fait que ça te passe un peu au-dessus, c'est aussi lié au fait que tu sois une personne transmasculine, en fait, que tu sois un homme, et que du coup, ton passing, il est peut-être plus facile à atteindre?
Ouais, c'est un vrai sujet dans la communauté trans. C'est vrai qu'en tant que personne transmasculine, on a forcément des privilèges que les personnes transféminines n'ont pas. On acquiert forcément, quand on acquiert notre statut d'homme dans la société, bah on passe du bon côté, c'est-à-dire que, bah, enfin, du bon côté, mon
Du
Dieu,
côté de l'ennemi,
du
mais
côté
la
de
vache.
l'ennemi, voilà, du côté de l'oppresseur. Ah. Néanmoins, si c'est l'oppresseur, comme la société a été construite par et pour les hommes, du coup, quand on passe de l'autre côté, bah, on est reçu à bras ouverts. Alors que forcément, pour les personnes transféminines qui osent renoncer à leurs privilèges masculins, osent renoncer finalement à tout ce schéma corporel et sociétal viril, bah du coup pour la société c'est vécu de manière extrêmement, je dirais limite dégradante. Et c'est horrible finalement de se dire que quand on se rapproche de la féminité, voilà, ça donne une image faible et méprisable, finalement même pas considérée. Parce que finalement, quand on est une femme, on est. Voilà, la femme, on dit bien que c'est le deuxième sexe, que c'est
Le sexe faible.
le sexe faible. Voilà.
Et aussi, même si, quand même, on serait une personne transféminine avec un super passing, justement, en fait, on subit la misogynie, tout simplement.
Bah, c'est ça, c'est-à-dire que c'est vraiment double peine pour les personnes transféminines.
Mais pour parler de toi, comment est-ce que tu gères cette éventuelle culpabilité d'être un homme? Sans vouloir. Je voulais mal dire sans, mais.
Non, non, alors, bah, j'ai de la culpabilité à être un homme, pourquoi? Parce que bah, ça me donne des privilèges. Et du coup, à partir du moment où il y a privilèges, ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas privilégiées. Et donc, du coup, qu'il y a une inégalité dans la société. Moi, c'est ça que je. Bah, c'est ça qui me fait chier, parce que du coup, pourquoi. Moi, je devrais avoir des privilèges. Pourquoi pour moi, ça devrait être plus facile quand pour tant d'autres adelfes, c'est plus compliqué et la vie est vachement plus rude. Je suis un peu dans ce dilemme-là en ce moment parce que, alors, je suis out quasiment nulle part, excepté les personnes qui me connaissent bien, mon entourage assez proche. Donc, c'est un petit coming out dans Extimité, vous avez l'exclu. Et du coup, comme je suis pas out, en fait, bah, les gens me prennent pour un mec cisgenre. Plus je me déconstruis, plus je m'informe sur les luttes féministes, sur les inégalités, plus ça me fait chier, en fait, d'être assimilé à un mec cis. J'ai pas du tout envie d'être assimilé à un HSBC, loin, loin, loin de là, vraiment. Ce n'est vraiment pas mon rêve. Et du coup, je suis vraiment en pleine réflexion en ce moment à me dire, mais est-ce que finalement tu ferais pas mieux d'être out et d'assumer et de clamer haut et fort cette identité singulière plutôt que de rester dans ce camp-là et d'être finalement assimilé à bah, l'oppresseur, quoi.
Faire ce coming out, c'est non seulement ne pas passer par un oppresseur, mais c'est aussi peut-être aussi devenir un meilleur allié et une représentation possible de personnes trans, d'autant plus que tu es afro-descendant et juif. Qu'est-ce que ça représente pour toi?
C'est vrai que il y a finalement pas énormément de représentations de personnes trans déjà racisées. En France, en tout cas, ou peut-être que je suis encore extrêmement ignorant et que j'ai beaucoup, beaucoup de travail à faire, mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé ma transition, pour pouvoir avoir un modèle de schéma corporel, en tout cas, qui me correspondait par rapport à mon afrodescendance, j'ai cherché plutôt du côté outre-Atlantique, où j'avais plus de représentations de personnes transmasculines racisées. Faire mon coming out, ça permettrait aussi peut-être d'ajouter une autre voix à un éventail qui est déjà hyper rempli de personnes transmasculines, mais qui pour la majorité bah, sont des personnes blanches. Bah, moi, au début de ma transition, pré-transition, j'aurais bien aimé avoir bah, des modèles, parce que je ne me considérais jamais comme un modèle, mais en tout cas des personnes qui ont fait ce parcours-là, voilà, tout simplement pour me dire c'est possible. Voilà, je pense qu'il y a aussi un manque de représentation de personnes transmasculines noires, parce que la masculinité noire est un sujet en soi. C'est-à-dire que déjà la masculinité, il y a beaucoup beaucoup d'injonctions à la puissance, à la non-émotion, mais je pense que ça touche aussi beaucoup plus les personnes masculines noires, parce que il y a tout ce mythe de l'homme noir extrêmement viril, extrêmement puissant, qui bande fort et dur tout en tout temps, et du coup peut-être que c'est plus compliqué pour les personnes transmasculines noires de d'aller dans l'espace public et de revendiquer un petit peu cette identité de masculin singulier tout en ayant cet héritage d'afro-descendance. Je prends aussi mes précautions par rapport à ça parce que c'est une très grande responsabilité de représenter une communauté. Alors bien évidemment, je ne suis pas tout seul à la représenter. Il y a tout un tas d'autres personnes qui ont déjà commencé le combat et apportent une représentation extrêmement positive de la communauté, du parcours et de la pluralité des discours. Néanmoins, c'est vrai que voilà, il faut faire attention à ce qu'on dit, attention à ce qu'on renvoie pour pouvoir permettre aussi bien aux personnes de la communauté de trouver un soutien, de trouver des alliés, mais aussi bien aux personnes qui ne sont pas dans la communauté, finalement à donner une bonne image de la transidentité et tout simplement pouvoir planter des petites graines un petit peu aussi dans le paysage cisgenre, leur montrer qu'un dialogue est possible et qu'une sortie de la binarité est envisageable.
Et c'est en même temps assez triste qu'on ait une telle injonction à l'exemplarité, en fait. Quand on est une personne LGBT+, a fortiori racisée, on ne devrait pas avoir à prouver notre humanité à qui que ce soit, notre respectabilité à qui que ce soit. Tout le monde mérite le respect. Et à quel point est-ce que c'est important pour toi d'être psy aujourd'hui, après toute cette errance médicale entre les mains de psychothérapeutes, de psychologues et de psychiatres qui t'ont plus ou moins bien traité?
Alors aujourd'hui, j'ai deux activités principales qui me tiennent vraiment à cœur. La première, mon métier de sexothérapeute, de psychothérapeute, j'ai vraiment envie de pouvoir offrir aussi bien aux personnes cis qu'aux personnes trans finalement, un espace suffisamment safe et suffisamment bienveillant dans lequel leur identité sera jamais remise en cause. Un espace où ils peuvent explorer, un espace où ils peuvent oser, et où justement il y a un champ des possibles qui peut s'ouvrir à eux, sans jamais avoir aucune espèce de jugement de la part finalement de la figure d'autorité hein, qui est le psy, parce que moi dans mon parcours c'est vrai que je plaçais un peu les psys en figure d'autorité, parce que c'était un peu eux qui allaient me délivrer le sésame pour pouvoir débuter ma transition. Et donc du coup j'ai vraiment pas envie qu'il y ait cette barrière hiérarchique là. On est simplement là pour essayer d'avancer ensemble. On ne sait pas où on va, mais on essaye d'avancer vers un mieux-être. Et c'est vraiment, en tout cas, ce que j'essaye d'apporter à ma patientèle. D'un autre côté, je suis formateur à destination d'un public psy, aussi bien étudiant que déjà en activité. Et mon but, c'est pendant une journée, de les faire un peu de les faire s'interroger sur le masculin, sur le féminin, qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme, et commencer quand on se reconnaît dans aucune des deux cases, commencer de vivre finalement dans une société qui nous impose forcément un schéma binaire. Et je me rends compte très souvent que les personnes que j'accompagne, les psys que j'accompagne, ne se sont jamais véritablement posé la question. L'idée, c'est pas non plus de révolutionner leur manière de penser, c'est pas de leur apporter des réponses. De toute manière, je leur dis bien en début de session que je suis pas là pour leur apporter des réponses, mais justement pour qu'ils repartent avec des questions. Et moi, c'est mon but de planter une petite graine pour que voilà, ils puissent commencer un peu à s'interroger sur toutes ces questions de binarité, sur toutes ces questions du genre, de leur rapport au genre, et que du coup, comme eux s'interrogent, ils interrogent leur entourage, et que ça se répande un petit peu comme ça. Et si je peux apporter ma petite pierre à l'édifice juste en faisant ça, et en leur expliquant comment recevoir au mieux les personnes queer dans leur cabinet, avec leurs questionnements, je suis hyper fier de pouvoir les amener à se dire qu'un autre monde est possible, et que je pense que l'être humain est suffisamment intelligent et suffisamment créatif pour se dire qu'il n'y a pas que deux cases, et que même s'il y a des cases, ça reste que des lignes et qu'on peut les briser, et que on s'en fout, quoi, soyons qui on veut, et à partir du moment où on se respecte les uns les autres et que
on a le droit de dépasser. Et c'est quoi la sexothérapie?
Moi, je suis psychothérapeute formé à la sexothérapie. Et donc l'idée, c'est qu'un sexothérapeute reçoit dans son cabinet aussi bien des personnes seules que des personnes en couple. Donc voilà, on peut venir seul ou à plusieurs, à partir du moment où la personne s'interroge et a soit s'interroge, soit des questionnements, soit une véritable problématique concernant sa sexualité. Sexualité, on n'entend pas forcément rapport sexuel, mais on peut entendre rapport à son genre, rapport à son corps, rapport à son moi désirant, rapport à son plaisir. Et du coup, je permets simplement à la personne de s'interroger. À partir du moment où la problématique n'est pas médicale, à savoir si c'est pas un dysfonctionnement qui est dû à une cause génétique ou à une cause pathologique, l'idée c'est d'accompagner le patient dans l'exploration de ces questionnements là, et puis qu'il puisse trouver les réponses à l'occasion de notre présence, quoi.
C'est un peu sex education en fait.
Exactement, voilà, tout à fait. Sauf que je ne fais pas ça dans les toilettes d'un lycée. J'ai un endroit quand même un peu plus sympa.
Mais beaucoup moins drôle. Comment est-ce que tu te sens dans ta judaïté aujourd'hui ?
Alors, effectivement, c'est vrai que cette identité à la fois afro-descendant et juif, c'est une identité qui a été compliquée à accorder au départ, parce qu'il n'y a pas énormément de représentation, excepté Drake quand même. Pré-transition et quelques années pendant, j'étais assez croyant. J'essayais d'être un bon petit juif. C'est-à-dire que j'ai fait à 13 ans ma bar mitzvah, donc en gros c'est l'équivalent de la communion, et parce que j'étais vraiment hyper attaché à tout ça, à la religion. Et c'est vrai que je ne sais pas si c'est mes lectures, je ne sais pas si c'est ma formation de psychothérapeute qui me fait me questionner un petit peu plus sur ces sujets-là et un petit peu ouvrir mes horizons. Mais maintenant, c'est vrai que je crois plus en Dieu. Je crois plus en Dieu parce que je suis persuadé que on demande à Dieu finalement ce qu'on se sent pas capable de faire. Et qu'au contraire, moi je serais plus partisan de dire qu'on a chacun une petite part divine en nous et qu'on est chacun capable de déplacer des montagnes tant qu'on a la volonté. Au début de ma transition, j'ai voulu quand même aller voir le rabbin qui avait pratiqué ma bar mitzvah pour pouvoir lui demander finalement de me valider en tant qu'homme. J'avais été validé dans la société, par la société en tant qu'homme. Maintenant, je ressentais le besoin de me faire valider dans la religion en tant qu'homme. Parce que à l'époque, je voulais me marier à la synagogue. Et donc, du coup, pour pouvoir se marier à la synagogue, il faut avoir un certificat qui atteste de ta judaïté. Et pour pouvoir avoir un certificat qui atteste de ta judaïté, il faut pouvoir avoir sa bar mitzvah. Sauf que moi, à l'époque, quand j'avais 13 ans, j'ai fait ma bat mitzvah, c'est-à-dire l'équivalent féminin. Et du coup, il fallait qu'il puisse me changer ce certificat-là pour que je puisse être reconnu comme un homme. Et donc, j'ai eu un entretien qui s'est, somme toute, plutôt bien passé, que il m'a pas mégenré. Donc, je partais, moi, avec de grosses a priori en me disant, c'est quand même un homme de religion, donc très certainement que, parce que Dieu, dans la Bible, dit qu'il ne faut pas toucher à son corps, qu'il ne faut pas faire de modifications. Et là, j'en avais fait légèrement. Et franchement, il a été assez bienveillant, il m'a genré correctement. Sauf que très rapidement, a été mis sur la table les opérations. Et il voulait avoir des certificats médicaux pour s'assurer que j'avais bien fait les opérations, que j'avais bien un taux de testostérone de mon cul. Et en fait, moi, je suis totalement déconnecté à partir de ce moment-là parce que, ce n'est ni mes opérations, ni mon taux d'hormones qui va venir justifier mon identité. D'autant plus que ça ne te regarde pas, quelconque autorité que tu sois, pour pouvoir valider mon identité. Je te demandais simplement de changer un papier. Ça a été une rupture assez nette à ce moment-là, parce que j'avais pas envie de perpétuer ça. Et donc voilà, maintenant je suis dans le respect des traditions, parce que je viens aussi d'une famille de déportés, donc c'est vrai que l'idée c'est aussi de passer l'héritage, mais je pars du principe qu'on n'est pas forcément obligé de bien pratiquer la religion pour pouvoir passer cet héritage, passer ce poids de l'histoire à nos enfants et expliquer les traditions et la culture juive sans pour autant faire Shabbat tous les vendredis, quoi.
Et quand tu te regardes dans le miroir aujourd'hui, qu'est-ce que tu vois ?
Je vois tout un tas de choses. Je vois pas mal d'héritages d'un peu partout. Je vois un véritable métissage au sens large du terme. C'est-à-dire que... très clairement, je viens de pas mal d'endroits différents. Voilà, j'ai cette afrodescendance du Cameroun au niveau de mon père. Mais j'ai également ce côté juif à la fois séfarade et ashkénaz, donc pieds noirs et polonais, donc plein de trucs un peu différents qui se mélangent, qui un temps m'ont paru un peu mindfuck et je savais pas trop quoi en faire de tout ça. Mais aujourd'hui, je pense que je le chéris vraiment. C'est vrai que j'ai toujours été plus à l'aise avec le côté juif que le côté afro-descendant, mais tout simplement parce que j'ai pas été élevé dans cette culture-là, c'est-à-dire que la passation s'est pas faite, puisque mon père, il a connu son père quand il avait 40 ans, donc il a été vraiment au contact de ses origines bien bien tard, et donc la transmission père-fils ne s'est pas faite à cet endroit-là. J'ai rarement souffert de racisme. Tout au long de ma vie, j'ai dû être arrêté par la police pour un contrôle une à deux fois au cours de mes 26 années d'existence, donc je me considère quand même comme chanceux. Ouais, et dans le miroir, je pense que j'essaye de faire la paix un peu avec mon schéma corporel. Ça a été compliqué au début parce que forcément, comme je le disais tout à l'heure, c'est important de ponctuer en même temps.
Merci, merci.
Comme je le disais tout à l'heure, je sais pas si j'ai envie d'aller à la salle de sport parce que la société me dit que je dois aller à la salle de sport pour avoir un corps viril ou si c'est une volonté véritable de ma part. Donc j'essaye de me lâcher du lest un petit peu, d'être un peu plus conciliant avec l'image que me renvoie le miroir, d'être un peu dans le body positive et d'accepter mon corps masculin comme il est. Mais c'est un cheminement qui est encore en cours de travail.
Il y a un truc qui... Enfin, pardon, t'as dit que t'avais fait l'expérience de deux contrôles. C'était avant ou après transition ?
C'était après transition.
Qu'est-ce que ça dit, ça ?
Effectivement, je... Qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que ils ont arrêté un homme noir, quoi.
Bienvenue dans la masculinité noire.
Merci. C'est vrai qu'étant petit, j'étais beaucoup plus blanc de peau que je le suis actuellement. Quand j'étais adolescent, je me lissais les cheveux. Donc du coup, je pouvais avoir un pas trop noir passing. Là, c'est vrai que maintenant, peut-être d'ailleurs depuis que mon père a renoué avec ses racines, depuis que je connais mon grand-père paternel, maintenant je me laisse les cheveux crépus et c'est un gain de temps assez fou. Mais surtout, j'essaie d'embrasser un petit peu plus ce côté-là de moi. Et plus que de l'embrasser, je dirais de partir à sa découverte.
Est-ce que tu t'es déjà senti majoritaire ?
Oui, je me suis déjà senti majoritaire, c'est très très clair, parce que finalement, dans toutes les minorités auxquelles j'appartiens, j'ai toujours été la majorité de cette minorité. C'est-à-dire que par rapport à mon côté afro-descendant, j'ai toujours été pas trop noir. Donc du coup, je subissais pas un petit peu le racisme systématique que d'autres adelphes pouvaient connaître. Par rapport à mon identité trans, j'étais du côté transmasculin. Donc j'avais pas à subir ce sexisme et cette misogynie que mes adèles transféminines devaient subir. Et puis, de toute manière, en soi, dans la société, je suis un homme, donc je suis majoritaire. J'ai des privilèges qui en découlent. Après, à moi de m'en servir à bon escient. Parce que ma parole est plus entendue, parce que je suis un homme, de porter la parole, le discours et les luttes de personnes qui sont moins écoutées, parce que moins bien considérées dans la société. Donc essayer en tout cas de retourner le système pour pouvoir tout simplement brûler le patriarcat à petit feu, donc m'infiltrer un peu dans l'intérieur et tout faire exploser, en tout cas à mon échelle.
Ça apportera de la ponctuation à ta punchline sur le patriarcat en flamme. Petite note d'attention à ceux et celles qui se demandent où est Douce. Douce pouvait pas être parmi nous aujourd'hui, mais heureusement qu'on est deux et on est une équipe qui gagne. Donc voilà, j'espère que je te fais honneur, Douce. Merci. Et merci beaucoup, Morgane.
Merci à toi, Anthony.
C'était Extimité, le récit de la construction et de la déconstruction de personnes minorisées.
Un podcast natif indépendant créé par Douce Dimondo et Anthony Vincent à retrouver un dimanche sur deux sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Castbox, Google Podcasts et tout plein d'autres plateformes d'écoute.
Pour nous soutenir, un lien PayPal se trouve en description pour nous faire des dons, afin que l'aventure continue.
Pensez à parler d'extimité autour de vous, nous laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et enfin, nous suivre sur nos réseaux afin de suivre toutes nos actus.
Merci.
Le générique était un extrait du morceau Tonabi de l'artiste Persian Empire.